おかしいおかしい。キリキリキリ。
Bonsoir, Clim de la Presse de ce soir vous propose trois thèmes à savoir. Réunion inter-institutionnelle hier à Lubumbashi, à l'ordre du jour. Plusieurs questions notamment, l'organisation des prochaines élections et les rapports Mapping portant sur les graves violations des droits de l'homme. Ensuite, hausse du prix des produits pétroliers depuis le week-end dernier à Kinshasa. Le litre est passé des 970 francs congolais à 1150 francs congolais. Enfin, refoulement des Congolais d'Angola, les agences des Nations Unies et la MONUSCO déclarent que l'opération aurait été accompagnée de violences. Participent à ce débat trois confrères journalistes. Il s'agit de Joachim Diana, il est directeur de publication du journal L'Avenir. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana. Benoît Cambéré, le rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît aussi à Kinshasa et distribué à l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bien le bonsoir, Dimitri.
Ali Boukassa, il est journaliste à la radio Tritanté, c'est une radio qui émet depuis la ville de Mwene-Ditou au Kasaï oriental. Bonsoir Ali Boukassa.
Dimitri, bonsoir, bonsoir amis de l'émission de Radio Kati.
Réunion inter-institutionnelle, hausse du prix du carburant, ainsi que refoulement des Congolais d'Angola, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse chinoise a accepté ces différents thèmes? Nous allons le savoir à travers cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont retenu l'attention des journaux Paris cette semaine à Kinshasa. Il s'agit de la hausse des prix des produits pétroliers et du refoulement des Congolais d'Angola. Carburant, les raisons de l'augmentation du prix révélées titre la tempête des tropiques. Selon ce journal, Jean-Marie Boulambo, ministre de l'économie nationale, a avancé deux raisons majeures. D'abord, l'augmentation des prix sur le marché international et ensuite, le gouvernement congolais qui n'est plus en mesure de supporter la subvention des produits pétroliers. Mais pour forme des actes, la population est sacrifiée sur l'autel des appuis budgétaires. Ce journal annonce aussi que le gouvernement s'est désengagé de la prise en charge de la subvention des produits pétroliers. En tout cas, provient forme des actes, les fêtes de fin d'année risquent d'être dures pour les populations congolaises. Une flambée des prix a tout de même créé la désolation dans la capitale, rappelle la Prospérité, qui estime que les Chinois étaient surpris de constater que les litres d'essence pour la partie ouest de la République, notamment à Kinshasa, au Bas-Congo et au Bandundu, est passé de 950 francs congolais à 1150 francs congolais. Terminons cette revue de la presse avec l'affaire du refoulement des Congolais d'Angola. La tempête des tropiques qui revient à la charge, titre « Expulsion des Congolais d'Angola », le député Clément Kankou exige une enquête parlementaire. Celle-ci sera chargée d'examiner la situation des Congolais expulsés de ce pays. Pour sa part, L'Avenir estime que loin de se moquer tellement du calvaire des Congolais en Angola. Ceci suite à la brutalité, aux viols de femmes en plein camp, et enfin des morts d'hommes.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Joachim Diana, vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Et votre commentaire par rapport au travail fait par la presse chinoise de cette semaine?
Oui, tout à fait. En fait, on ramassait pratiquement les grands problèmes qui ont été traités pendant la semaine, qui ont retenu l'attention des gens la semaine. Cette histoire des expulsés d'Angola, cette histoire de la hausse des prix, c'était ça l'actualité qui a un peu tranché avec les manchettes essentiellement politiques des autres semaines.
Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa et distribué à l'est de la République démocratique du Congo. Votre commentaire par rapport au travail de la presse?
Ben écoutez, elle a fait son travail comme d'habitude. La sélection que Samuel a faite, j'ajouterai en ce qui me concerne deux autres points. Par exemple, la grève des enseignants qui bat son plein, particulièrement dans la partie est, Goma, Bukavu, et même une partie de Butembo, les enseignants sont entrés en grève. Moi, je pourrais épingler ça, ça entre un peu dans la vague sociale depuis la grève des médecins. Et enfin, un dernier point, qui certes, c'est depuis hier, depuis la semaine qu'on en parlait, c'est le procès Tchebea qui a enfin commencé aujourd'hui ici à Kinshasa. Voilà.
Ali Boukassa, vous êtes journaliste à la radio Kitanko, c'est une radio qui émet depuis la ville de Monédi, au Kassai oriental. Quelle est l'actualité qui a dominé au Kassai oriental cette semaine?
Oui, ma tout d'abord, vous remercier de l'invitation à la tribune. L'actualité ici à Monédi, c'est les soucis de la population du territoire des Louilou, c'est aussi relatif au nombre insuffisant ou insignifiant des centres d'inscription. 33 bureaux d'inscription pour 2 200 000 habitants, un territoire de 11 874 km², plus grand que la République gambienne, pas plus grand que le Cap-Vert. 33 bureaux d'inscription, c'est insignifiant par rapport au territoire. Et illustration de l'insignification même du nombre de ces CCI, il faut dire que le seul groupement des Mouloud qui a un seul bureau d'inscription, les populations auront à faire les unes 60 km et les autres 80 voire 100 km pour se faire enrôler au chef-lieu du groupement.
Merci, nous abordons notre premier thème ce soir. Réunion interinstitutionnelle hier à Lubumbashi, à l'ordre du jour. Plusieurs questions, notamment l'organisation des prochaines élections et les rapports Mamping portant sur les graves violations des droits de l'homme. Fin hier de la réunion interinstitutionnelle tenue à Lubumbashi sous la houlette du chef de l'État. Plusieurs questions étaient passées au point de fin, notamment celles relatives à l'organisation des élections et au projet Mamping portant sur les violations graves des droits de l'homme et des droits international humanitaire. Étaient présents les responsables des différentes institutions auxquelles se sont joints quelques ministres et le président de la commission électorale indépendante CEI en cible. L'essentiel du compte rendu lu par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Adolphe Gloumanou avec Jean Ngandou.
Si la situation sécuritaire est dans l'ensemble calme dans le pays, la réunion interinstitutionnelle a salué la prestation des SRVC sur le terrain, notamment à Dongo dans la province de l'Équateur, à Ituri dans la province orientale et dans les provinces de l'Est. Pour ce qui est de la CEI, les participants ont recommandé le renforcement de son cadre légal et réglementaire, notamment par la révision de la loi électorale durant la session parlementaire en cours, ainsi que la finalisation dans un délai bref des décrets d'application de la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. La réunion interinstitutionnelle a aussi réaffirmé la mise à disposition par le gouvernement des moyens nécessaires pour assurer la bonne organisation des élections dans le délai constitutionnel. Évoquant le rapport Mapping portant sur les violations graves des droits de l'homme commises en RDC Congo entre 1993 et 2003, le ministre de la Justice a montré la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant aux juridictions congolaises de connaître des crimes internationaux. Enfin, abordant la problématique des taxes provinciales, la réunion interinstitutionnelle a indiqué qu'une réunion entre le gouvernement central et le gouverneur de province est prévue à cet effet. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Benoît Kambéré, une fois de plus, les présidents des différentes institutions se retrouvent pour examiner les différents problèmes qui préoccupent la nation. D'abord, comment vous appréciez cette approche qui consiste à mettre ensemble les présidents des différentes institutions pour débattre des questions qui touchent la nation congolaise?
Mais c'est une bonne initiative, bien qu'elle ne soit pas constitutionnelle, n'est-ce pas? Et avoir même la matière qui est traitée, c'est des matières qui ont leur destinataire. À titre d'exemple, la révision de la loi électorale, c'est une matière de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi on doit la traiter au niveau d'une réunion institutionnelle, alors que c'est une matière qui, normalement, se traite au niveau de l'Assemblée nationale.
La réunion n'a fait que des recommandations.
Oui, la réunion ne peut faire que des recommandations. On ne va pas attendre une réunion institutionnelle pour faire de telles recommandations. Le problème des élections, ce n'est pas une affaire c'est une affaire du gouvernement qui doit voir avec le Parlement ce qui peut être fait. C'est vraiment, on peut se retrouver entre responsables d'institutions pour parler de la situation du pays, mais si toutes les institutions faisaient correctement leur travail, moi je ne vois pas la raison d'être d'une réunion interinstitutionnelle qui n'est même pas constitutionnelle. Parce que le rapport Mapping, le ministre de la Justice, il pouvait débattre de ce rapport au sein du gouvernement, où d'ailleurs on a déjà commencé à en parler. Et qui dirige le gouvernement, c'est des fois le chef de l'État qui est à la tête, qui dirige le conseil des ministres, mais c'est le premier ministre qui est en charge de ça. Le premier ministre ne doit pas se déplacer de Kinshasa pour Lubumbashi, pour amener les problèmes du gouvernement, pour les traiter dans une réunion institutionnelle qui ne fera que des recommandations. À mon sens.
Joachim Medjana, il n'y a pas de raison d'être de cette réunion interinstitutionnelle parce qu'elle n'est pas constitutionnelle.
Ah, écoutez, cette réunion, c'est parmi les génies d'organisation de l'actuel gouvernement, de l'actuelle majorité au pouvoir, dans ce sens que il y a des institutions, que par exemple les cours des tribunaux, qui travaillent de leur côté. Il y a le gouvernement de son côté, il y a le Parlement de son côté. Et parfois, vous allez vous rendre compte que les institutions n'ont pas d'harmonie entre eux. Le Parlement va par exemple se plaindre que nos recommandations qui vont au gouvernement ne sont pas traitées. Et vous allez vous rendre que la justice est ici. Et moi, je pense que c'est le cadre où jamais pour ces gens-là, ces chefs des institutions, peuvent se rappeler la ligne de conduite générale. Je ne vois pas qu'elle soit institutionnelle ou pas, mais son objet, c'est d'aider les institutions constitutionnelles à bien travailler.
Donc, pour couper court à ces débats, pourquoi ne pas carrément consacrer ces cadres-là dans la Constitution.
Mais tout à fait, c'est une proposition que nous retiendrons, qu'elle vient de toi, pour que prochainement, quand il y aura une révision constitutionnelle, qu'on puisse l'instaurer. Parce qu'il y a bien un collège, comment on appelle ça, un collège de gouverneurs ou quoi,
pour que la conférence de gouverneurs,
pour que le gouverneur puisse se retrouver pour parler, et pourtant chaque province est à part ce genre. Mais le gouverneur se trouve ensemble pour parler des problèmes. Ça m'étonnerait que les institutions n'aient pas un cadre pour se parler. Ce cadre informel peut devenir formel. C'est une excellente proposition que tu viens de faire.
Allez-vous faire votre réaction?
La réaction, c'est que Guy Matelon doit comprendre que c'est à l'issue d'un besoin qu'une loi doit être mise sur pied. Et les cas de l'interinstitutionnel en est une. Je crois que le constituant RD congolais est très attentif pour qu'il prenne les bonnes notes et qu'au besoin, dans les jours à venir, qu'on puisse avoir une conférence interinstitutionnelle constitutionnelle. Mais là, par rapport à cette réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue à Lubumbashi, il faut également souligner que c'est une traduction de la volonté de la détermination des institutions de la République, bien entendu sous l'impulsion du président Kabila, d'organiser dans les conditions les élections dans cette République démocratique du Congo. Et de bien, il faut dire que les élections sont une voie bien aimée de la démocratie pour la conquête du pouvoir. Là, il faut souligner que la RDC se montre encore une fois de plus bon élève appliqué de l'école de la démocratie. Et c'est tout ce que j'ai pu placer par rapport à ce stade des choses.
Benoît Kambéré, Ali Boukassa évoque les élections. Nous savons que la question des élections a fait l'objet des échanges lors de cette réunion, comme lors de la dernière réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue
en Bouchima.
C'était au mois de novembre dernier. Les élections étaient encore au centre du débat. Peut-on aujourd'hui dire que les élections constituent, si pas une priorité, mais une urgence du gouvernement congolais?
Oui, je ne pense même pas si bien dire. C'est l'urgence, apparemment urgente, parce qu'on met tous les moyens pour les élections, mais sans tellement. En fait, je voudrais dire que si on voulait que les élections se passent correctement et bien, on devait préparer ça depuis longtemps. Maintenant, mettre le bouchon double, c'est bien, mais une élection se prépare dès que la première élection est terminée. En ce sens que pendant pratiquement 5 ans, 4 ans, on n'a pas donné les moyens à la CEI. Les agents de la CEI sont allés en grève. Il y a eu des kits qui ont circulé. En fait, le travail s'est presque arrêté à la CEI faute de moyens. Ce n'est pas maintenant, en mettant le bouton double, en appuyant sur l'accélérateur, qu'on va récupérer tout ce retard qui aurait pu se faire normalement. Nous avons entendu notre ami Ali Boukassa tout à l'heure.
pour ce qui est des bureaux d'enrôlement en ce qui concerne la province du Kasaï. Si les choses s'étaient passées normalement, la révision du fichier électoral aurait pu se faire calmement, avec le temps qu'il faut, avec les moyens qu'il faut, mais maintenant là, on est obligé de mettre la pression et sûrement, avec déjà les problèmes d'immensité du pays, comme on a trop attendu, on risque d'avoir des problèmes et on risque de ne pas arriver dans les délais. Préparer les élections, c'est justement faire que la CEI fonctionne normalement comme une institution qui est budgétisée et n'est pas bloquée et puis essayer de donner le moyen à la fin, on risque d'arriver à un résultat bâclé.
Joachim Diana, bien entendu, a évoqué la question des moyens financiers. Et lors de cette réunion interinstitutionnelle, les participants ont réaffirmé la mise à la disposition par le gouvernement des moyens nécessaires pour assurer la bonne organisation des élections dans le délai constitutionnel. Comment vous vous réagissez à cette bonne nouvelle?
C'est une très bonne nouvelle, et même si notre ami Kamel, quoi, il a l'habitude, il a sa curieuse façon de voir les choses. Et il y a un calendrier électoral. C'est dans ce calendrier électoral que l'on prévoit les actions à mener dans le cadre des élections à préparer. Bon, il y a les élections de 2006, dont une partie, c'est-à-dire les élections locales, n'ont pas eu lieu. Et maintenant, on voit les élections de 2011. Il n'y a pas longtemps qu'on a publié un calendrier par la CEI, en attendant que la CEI vienne. Mais c'est ce calendrier qu'on est en train d'appliquer. Je ne vois pas le retard, il se situerait à quel niveau. La réunion interinstitutionnelle de Mbujimayi avait posé le principe pour que le gouvernement mobilise les moyens. Et même à cette réunion, on avait même dit que en évaluant les moyens, le gouvernement pouvait organiser les élections sans avoir besoin d'appui extérieur. Mais s'il y a les appuis qui venaient de l'extérieur, il ne refuserait pas. Maintenant qu'il y a les appuis qui sont venus de l'extérieur et qu'il y a un comité qui s'est organisé pour rassembler l'argent des partenaires et consorts pour organiser ces élections-là, la réunion actuelle de Lubumbashi doit avoir évalué toutes ses parts et la part du gouvernement pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut organiser les élections. La situation qu'il y a eu à la CEI, à l'époque où il n'y avait pas géré la grève de faim, il y avait ceci. C'était une situation réelle qui a été déjà résolue. On ne doit pas y revenir pendant qu'on va de l'avant. C'est pour dire que le budget, ce n'est pas lorsqu'on dit qu'on a budgétisé. Cela ne veut pas dire que puisque c'est budgétisé, qu'est-ce que le budget? Ce sont des prévisions. Si on a budgétisé et qu'on n'a pas mobilisé au terme de ce budget-là, il y a des dépenses qui tombent. C'est regrettable que
les dépenses qui dépassent leur budget. Il faut rappeler que le budget global de ces élections est évalué à 715 millions de dollars américains, et donc environ 400 millions doivent provenir du gouvernement congolais.
Tout à fait. Et donc c'était une bonne occasion pour le gouvernement pour évaluer qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place, qu'est-ce qu'il reste, comment est-ce qu'on va les avoir, et surtout c'est le dernier budget, le budget 2011, c'est dans ce budget qu'on doit retrouver tout cela. Et donc la réunion interinstitutionnelle de Lubumbashi est donc tombée à point nommé.
Ali Bukasa, parmi les recommandations de cette réunion, il y a la révision de la loi électorale. Nous nous rappelons que lors de la dernière réunion de Kindakati, l'ANP avait souhaité la révision du mode du scrutin, donc le mode proportionnel. Bon, pas dans les fonds, mais plutôt améliorer ce mode proportionnel en élaguant certaines imperfections. Comment vous réagissez par rapport à cette recommandation de cette réunion interinstitutionnelle?
Si permettez-moi de passer un mot d'abord par rapport à ce niveau de débat, en disant que nous aurions souhaité également que cette interinstitutionnelle parle des difficultés de déléance qu'ont relevé la population, c'est par rapport au nombre de centres d'inscription. Le cas du territoire de l'île dans le Kasaï oriental n'est que la partie visible de l'iceberg au vu de la géographie de la République démocratique du Congo. Je suis vu avec rare bénéfice le papier du collègue Jean-Dandy de Lubumbashi, nulle part je l'ai entendu parler de cette question-là. Donc c'est si du moins on tient à enrôler les Congolais et non pas le groupement. Car, mon cher Guy, à la lumière du président, ces opérations du fichier, de la révision du fichier électoral ont la chance de devenir une messe de formalité. La révision de la loi électorale, moi, je l'ai toujours appelée de tous mes voeux, parce que là, il faut dire que partiellement, je ne voudrais pas qu'on la revoie totalement. Il y a une disposition qui ne m'a pas toujours plu et qui m'a toujours laissé à mes réflexions, c'est celle parla du mode de vote à liste, parce qu'aujourd'hui on trouve qu'on a des députés, des listes que des députés des électeurs, du peuple. Je voudrais qu'on parle bien du mode uninominal, que chacun soit pour soi. Parce qu'aujourd'hui, avec le mode en cours, l'on voit qu'il y a des députés qui ont été repêchés. Quand ils sont repêchés, c'est dire que la population ne les aimait pas. Mais aujourd'hui, ils siègent. Voilà là où se trouve l'infirmité de ces modes de vote.
Donc, André, quel est votre point de vue par rapport à la recommandation sur la révision du mode proportionnel?
Non, mais écoutez, la révision de la loi électorale est inscrite au calendrier du Parlement. Donc, c'est un travail tout à fait normal et il est normal, après avoir eu les élections qu'on a eues, qu'on revoit certains aspects. Il y a même des gens qui ont proposé, je ne sais pas si ce sera encore une loi que Diana va baptiser la loi Guy Maté, mais on a proposé qu'on ne fasse plus d'élections au second degré, avec tous les dégâts qu'on a eus dans les provinces, des sénateurs, au lieu que, à titre d'exemple, on élise le sénateur et le gouverneur de province au second degré, la circonscription des gouverneurs et des provinces serait la province tout entière. Comme ça, les gens, les gouvernants, ne seraient pas à la merci des assemblées provinciales qui peuvent les basculer au gré des humeurs. Non, la révision de la loi électorale, c'est une bonne chose et elle s'impose compte tenu des couacs qu'on a vus avec la loi électorale lors des élections dernières.
Jacqueline Diana, par rapport à tout ce que Ali Boukassa et Benoît Kambere ont relevé comme fait, donc la révision de la loi électorale est plus que nécessaire.
Oui, écoutez, dans leur course, il y a plusieurs modes d'élection. Mais on ne choisit en mode que par élimination, on choisit le mode qui s'adapte le mieux à la situation du pays. Si on avait choisi la proportionnelle, c'est parce qu'on s'était dit qu'on sort de la guerre, on sort d'un régime 1+4, et on reconnaissait aussi l'inégalité qu'il y avait entre les différents concurrents, c'est-à-dire les différents partis politiques. Alors, si on prenait une nominale, on aurait des camps qui gagneraient tout, et on aurait aussi des camps qui perdraient tout. Donc, on pourrait se retrouver avec une Assemblée nationale à 90%, avec une opposition de quelques 10%. Donc, ces déséquilibres-là ne seraient pas favorables à la démocratie. C'est pourquoi on a choisi la proportionnelle qui permet même aux petits partis politiques de se retrouver. C'est ce qui fait que l'opposition a aujourd'hui le poids qu'il a, que les gens indépendants se sont aussi fait élire.
Donc, il y a des gens qui ont été élus avec les voix des autres.
Tout à fait. Mais il y a un inconvénient avec ce système, c'est que le mode de calcul, parce que ça prête à confusion. Quelqu'un va dans un bureau de vote, il voit que lui, il a 7000 voix. Il y a quelqu'un qui n'a que 50 voix. Et il dit, ah, moi j'ai été élu plus que lui. Mais après, il voit que c'est celui qui avait 50 voix qui est élu. Mais pourquoi? Parce qu'il est sur une liste et il a bénéficié du plus grand reste de numéro 1 de sa liste. Lui, il dépasse l'autre. Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment celui qui avait 50 voix comme ça, il peut me dépasser. Et c'est ça, donc c'est un mode où on doit obligatoirement passer par le centre de compilation pour qu'on fasse des calculs. Et il semble que c'est à travers ces calculs que certains... Si on évitait ce mode-là, ça serait plus facile. Il y a directement dans la liste celui qui a été élu et souci de mettre ensemble une liste unique, donc pour une nominale. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Mais est-on prêt à accepter demain une assemblée nationale avec une plus grande majorité d'un seul cas, avec un autre cas qui pourrait même sortir avec 2, 3, 4, 5 députés comme ça? Il y a le problème que notre ami Campbell vient de soulever, celui de l'élection au suffrage universel direct pour le gouverneur. Mais ça pose aussi un problème de contrôle. Si les gouverneurs estiment qu'ils ne sont pas redevables à l'Assemblée provinciale parce qu'ils ne peuvent rien faire pour lui, est-ce qu'il va améliorer sa gouvernance? C'est ça aussi un problème. Chaque système a ses inconvénients et ses avantages.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Hausse du prix des produits pétroliers à Kinshasa. Le litre est passé de 970 francs congolais à 1150 francs congolais. C'est le gouvernement qui renonce à la prise en charge de la taxe qu'elle devait le pétrolier. Voilà qui a conduit à une hausse de près de 20% sur les prix des produits pétroliers. L'explication vient du ministre de l'Économie. Le gouvernement ne pouvait plus poursuivre cette subvention suite à l'option qui consiste à maximiser les recettes. Ce sont surtout les partenaires extérieurs de la République démocratique du Congo qui menaçaient de suspendre leur appui au budget 2011 en cours d'examen si le gouvernement congolais continuait à subventionner les produits pétroliers. Le ministre de l'Économie, Jean-Marie Boulambo-Kilosto, explique au micro de Daniel Sambinzoni.
Les partenaires de la RDC se disent que nous ne pouvons pas nous amener nos appuis pendant que par voie recette qui aurait dû devenir s'ajouter à l'effort que nous faisons, pendant que donc cet effort, cette collecte intérieure est en train d'être utilisée pour financer les entreprises de l'intérieur. Alors ils se disent, ou bien vous continuez avec votre politique et nous n'intervenons pas, les appuis budgétaires nous les bloquons, vous comprenez, c'est ce qui a amené le Premier ministre de nous instruire de cesser cette prise en charge assez lourde pour le trésor public et de pratiquer le prix réel sur le marché pour ne pas nous permettre de prendre le risque de ne pas voir les appuis budgétaires venir dans notre pays.
Benoît Kandéré, la décision prise par le gouvernement de ne plus subventionner les produits pétroliers, peut-on dire que c'est le prix à payer pour continuer à bénéficier de l'appui financier des partenaires traditionnels? C'est en quelque sorte ce que le ministre de l'Économie vient de dire.
Selon le gouvernement, oui, c'est le prix à payer. Mais le ministre a parlé également de maximisation des recettes. Je crois que et ça, c'est le débat de tous les jours, n'est-ce pas? On devrait peut-être faire travailler les ménages davantage pour maximiser les recettes internes. Bon, là, on est pris par la gorge parce que l'extérieur doit nous aider. On est obligé de nous plier, j'allais dire, aux caprices des gens qui nous aident. C'est malheureux. Tout simplement parce que nous ne faisons pas un effort pour maximiser les recettes à l'intérieur. Et ça, comment? En faisant quoi? Le gouvernement devrait plutôt penser à autre chose, à boucher les trous, par exemple. Toutes ces recettes qui vont dans des signatures, dans nos frontières, on voit les trains de vie que mènent certains agents de l'État. Personne ne se fait d'illusion. On a parlé de tolérance zéro. On attend que tous ces trous soient bouchés. Les dépenses inutiles, on devrait mettre un frein là-dessus. C'est là qu'on maximiserait les recettes. J'ai entendu le ministre parler du baril de pétrole qui a augmenté à l'extérieur. Je me suis donné la peine de vérifier. Le baril de pétrole, depuis un moment, n'a pas dépassé le cap de 85 dollars. Alors, si on doit expliquer ça par cela, c'est quand même assez dommage. Et à la fin, c'est qui va payer? C'est la pauvre population qui va trinquer parce que on peut dire tout ce qu'on veut avec cette révision du prix du carburant. C'est la flambée des prix qui va venir. On a déjà vu, bon, on a essayé de maîtriser un peu le prix de transport ici à Kinshasa. À Matadi, c'est déjà en vogue. Et quand le prix du transport augmente, tout suit avec. Et maintenant que la fin de l'année approche, on est au mois de novembre, les festivités de fin d'année, alors le peuple va vraiment trinquer. Hein.
Ali Bokassa, peut-on affirmer que le gouvernement est en train de payer les prix de sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur?
C'est inévitable, Dimadé. Mais il faut dire que la République démocratique du Congo a bien besoin aujourd'hui de garder, de conserver, d'avoir avec elle tous ses partenaires. C'est une décision très sévère, une décision qui vient resserrer le taux de la misère du peuple congolais. Ça vient remuer les couteaux. Mais que peut-on dire? Gouverner, c'est prévenir aussi. Gouverner, c'est aussi voir avant la cité le danger qui arrive. Donc je crois que je vois mal que le gouvernement congolais ait tort comme raison. Parce que déjà, ici, on l'a dit, tout le théâtre funèbre s'est fait déjà sentir. Un litre d'essence qui se vendait au prix officiel à 1177 francs congolais, aujourd'hui, se vend à 2741 francs congolais.
allez-y comprendre quelque chose dans cette partie de la République où nous n'avons pas de barrage hydroélectrique, mais nous travaillons que sa base de quoi du gazoil. Donc c'est de la peine qu'on convient nous ajouter ici à Mobutu. Et nous, en tant qu'agents radioteurs, nous travaillons avec de l'essence, nous sommes contraints de réduire les heures d'émission. Les cabines publiques également, les moyens de transport, les transports en commun posent aussi problème parce que la trajectoire qu'elles ont payée, 300 francs, elle est partie de 300 francs à 600 francs. Allez-y, comprendre quelque chose. Et d'ailleurs, selon les opérateurs pétroliers, le pire nous attend encore.
Jacqueline Guénard, vous avez suivi déjà les réformes qui commencent à se faire sentir. Comment peut-on concilier d'un côté les impératifs sociaux et de l'autre, la nécessité de satisfaire les partenaires extérieurs?
J'ai toujours dit, mon voisin d'en face,
Benoît
Campbell, il a toujours dit, non, il ne faut pas toujours dire le Fonds monétaire international, il ne faut pas toujours le Fonds.
Je continue.
Voilà un gouvernement qui estime que le pétrole étant un secteur très important, si je libéralise, il y aura des effets que les confrères ont dénoncés tout à l'heure. Il y a hausse des prix des transports, hausse des prix des transports qui va généraliser la hausse des prix. Il essaye de consacrer au sacrifice en subventionnant. Mais l'extérieur lui dit non. Vous ne pouvez pas subventionner, sinon nous n'apportons pas des appuis budgétaires. Qu'est-ce qu'il y aurait comme conséquence? Sans appui budgétaire, demain, les gens allaient se poser la question, mais ce fameux point d'achèvement que nous avons atteint. Parce que le point d'achèvement n'aura été important que lorsque on a des appuis qui nous permettent de travailler. Parce que ce qu'on a annulé comme dette, n'était pas de l'argent comptant, c'était ce que nous mobilisons, que nous payons. Et que maintenant, si on peut nous apporter les appuis budgétaires pour travailler, ça serait non. Mais s'il n'y a pas d'appui budgétaire, on allait poser la question, mais à quoi bon avoir serré la ceinture pour atteindre le point d'achèvement?
Vous pensez que la RDC est incapable d'avoir un budget consistant sans ses appuis extérieurs?
C'est impossible si on tient compte de l'économie mondiale et du système économique, à moins d'en sortir. On peut en sortir, on dit, voilà, nous allons au reste. Mais le temps qu'on est sous la coupe du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, donc vous faites cet impôt, on vous dira cet impôt, c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Lorsque vous faites un budget, vous vous souviendrez, je crois, en 2007, les parlementaires qui ont essayé d'augmenter le budget du Congo en augmentant quelques recettes. Le Fonds monétaire a dit non, pas question. Nous avons fixé des paramètres et ainsi de suite. Vous devez revenir à ceci. Et vous vous souviendrez aussi que sur le budget 2011, s'il est allé un peu en retard au Parlement, c'est parce que le Fonds monétaire international voulait jeter son coup d'œil pour dire ce que vous avez tenu, ceci, contre des ici, et cela. Et tout ça. Donc, on ne peut pas, dans une économie moderne, vous êtes membre de l'FMI, de la Banque mondiale, vous dites que vous pouvez faire augmenter les recettes comme vous pouvez. L'économie, c'est une science exacte. Vous allez trouver cet argent où, au moins à se facturer, à moins de créer, il faut avoir de l'argent. La seule façon d'augmenter les recettes, c'est d'avoir les moyens de produire et d'avoir d'autres unités de production qui pourront payer la taxe, augmenter les moyens. Mais si nous n'avons que les mêmes entreprises, nous n'avons que le même contribuable, vous allez augmenter en le saignant. J'ai entendu Benoît dire qu'il faut boucher les trous. Mais les trous, ils ne sont pas les trous. Les trous sont souvent microscopiques. Ils existent, mais ils sont difficiles à boucher et surtout à voir. C'est ça, c'est un vrai problème. Dans tout le monde a dit la fraude, ce n'est pas pour dire qu'on l'appelle fraude. Elle n'est pas visible pour dire de ma volonté aujourd'hui. Je n'ai qu'à la fraude. Non, vous pouvez faire toutes les lois anti-fraude, mais encore qu'il faut arriver à arrêter les fraudeurs. C'est ça le problème.
Benoît Campbell, une certaine opinion pense que le gouvernement devait préparer l'opinion par rapport à cette hausse du prix.
Tout à fait. Et le gouvernement ne l'a pas fait. Vous n'avez pas entendu un communiqué, par exemple, qui annonçait, et même le week-end, quand la nouvelle est tombée, ce n'est pas venu de la voix officielle. Je dois tirer mon chapeau à Radio Capi. C'est par Radio Capi que beaucoup de gens l'ont appris. Et c'est seulement après coup que les politiques sont passés essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Ça, ce n'est pas prévoir, ce n'est pas gouverner. Je pense que cela devait être préparé. Et quand on sait ce que cela donne comme conséquence, cette augmentation, ben, on devrait préparer la population à amortir le choc. Malheureusement, c'est cette pauvre population qui va encore trinquer et de la bonne manière.
Ali Boukassa, qu'est-ce que vous proposez pour que le Congo puisse éviter ce genre de situation?
c'est de maximiser ces ressources, de créer les unités de production, c'est suffire. Faire ce que Moussa Laurent de Dieu, qu'elle a appelé hier, endettement du roi. C'est mettre du paquet dans l'agriculture avec ça, avec les cadres. Ce ne sont pas des têtes qui nous manquent, dit. Ici au pays, nous avons pratiquement tout, sauf peut-être la volonté qui nous manquait et qui commence à venir. C'est resserrer les mains, se considérer comme une partie du pays et travailler pour ce pays, c'est travailler pour soi-même, comme je l'ai toujours dit. Mais là, dit Mathé, il faut dire que le gouvernement devrait faire les bons offices. Concilier la chèvre et les choux. Faire le milieu. Passer par exemple par la représentation nationale, la chambre basse du Parlement, annoncer, pas seulement selon moi, en tant qu'un pays démocratique, qui devrait être transparent, comme l'a bien dit Benoît Candéré, que l'on devait le, on devait le savoir bien avant que l'on ait à consommer les répondants.
Merci, nous abordons notre dernier thème de ce soir. Refoulement des Congolais d'Angola, les agences des Nations Unies et la MONUSCO déclarent que l'opération aurait été accompagnée de violences. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies donne des chiffres sur les expulsions de l'Angola. Près de 7000 personnes sont arrivées au cours des deux derniers mois en République démocratique du Congo. Selon OCHA, entre septembre et octobre, 6621 personnes ont été expulsées par l'UISA et Tshikapa au Kasaï occidental. 322 autres personnes l'ont été par Tembo dans le Bandundu. Malgré les positions pas très claires des deux gouvernements, OCHA confirme toujours que la plupart de ces expulsés, majoritairement congolais, ont été victimes des violations des droits de l'homme, dont les violences sexuelles. Maurizio Giuliano, responsable de l'information publique et plaidoyer à OCHA, intervenait mercredi dernier dans la conférence hebdomadaire de la MONUSCO.
Selon les estimations de la communauté humanitaire, environ 7000 personnes ont été expulsées dans les derniers deux mois vers les provinces du Bas-Congo, Bandundu et Kasaï occidental. Dans au moins trois localités, plusieurs expulsés disent avoir été victimes de violences des droits humains, y compris violences sexuelles, pendant les processus d'expulsion. Nous, en tant qu'humanitaire, nous vous informons que, dans le cas de Tembo, des docteurs qui ont reçu une formation préalable en termes de détection des violences sexuelles, suite à avoir visité les victimes, ont exprimé une opinion médicale sur la base de leur connaissance de que, effectivement, ces victimes ont subi des violences sexuelles. Nous considérons que ces deux faits sont, à notre avis, vérifiés jusqu'au possible, parce que les docteurs les ont confirmés, mais en termes de confirmation du point de vue légal et officiel, évidemment, c'est seulement les autorités des deux pays qui peuvent confirmer ou non si ces faits ont eu lieu, qui les a commis et de quel côté de la frontière.
Ali Boukassaï, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Kipinto, c'est une radio qui émet depuis la ville de Monédic Boukassaï orientale. Que peut-on dire face à cette situation qui perdure, hein? C'est la énième fois que les Congolais sont victimes d'expulsion dans des conditions qui laissent à désirer.
Ce sont des réalités qui ont toujours attendu un pays post-conflit, un pays qui cherche à se relever. Nous devons avoir confiance en notre diplomatie actuelle, qui lave lentement mais sûrement l'image de notre pays. J'ai vu des milliers de femmes, des femmes enceintes, des enfants de moins de 5 ans mal nutris, des femmes violées. Ça n'a pas été un bon spectacle à voir. Je me dis que la diplomatie de notre pays a du pain sur la planche. La République d'Angola est une république sœur et c'est pas d'elle qu'on attendait un comportement du genre. Ça a été et ça continue à être un refoulement plein de sauvagerie, sans respect des droits humains, sans inverser même le gouvernement congolais pour qu'il prenne des dispositions à ce niveau. C'est erreur de ma part, mais il faut que le gouvernement mette la main à la pâte.
Jacqueline Diana, je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Une certaine opinion se demande pourquoi le gouvernement congolais ne prend pas une position claire par rapport à cette situation.
Tout à fait. Je pense que dans chaque chose, chaque médaille a ses deux revers et deux faces. Il faudrait que maintenant la communauté internationale juge un peu les dirigeants congolais qui, jusque-là, sont rester dans les règles des conventions internationales. Et que maintenant, si c'était le gouvernement congolais qui se mettait à accuser l'Angola de faire ceci, de faire cela, il y aurait des gens pour contester, même au niveau de l'intérieur. Mais là, que ça sort, auprès de tout le monde. Les agences des Nations Unies constatent effectivement qu'il y a un véritable, ce que nous, la presse, nous avons souvent dit et qu'on a compté, ce qu'on a mis sous le signe d'un certain extrémisme, mais quand ce sont les humanitaires qui le disent. Alors, imaginez-vous, je pose la question, que le gouvernement congolais se mette à expliquer les voisins de cette manière-là. Imaginez le télé général que ça ferait dans le monde entier.
Non, pas nécessairement expliquer, mais sortir de ce mythisme.
Non, mais c'est ce que je dis. Bon, maintenant, le gouvernement congolais constate. Vous avez, dernièrement, le gouvernement congolais s'est dit non, trop c'est trop. Et il faut que cette fois, nous appliquions la réciprocité. On s'est mis à expulser les Angolais. Nous sommes dans des rédactions. Mais nous étions envahis par qui? Par des Congolais. Ils viennent dénoncer, non, il y a un Angolais là-bas qu'on vient de partir. Et pourtant, il a une femme, il a des enfants. Ce sont des Congolais. Mais en Angola, et la population, et tout le monde se mettent à pousser les Congolais dehors. Donc, tu vois, c'est cette mentalité-là. Mais je pense que, autant, on ne doit pas pousser le gouvernement congolais à faire la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent, mais que le gouvernement congolais, maintenant qu'il y a la dénonciation des agences de l'ONU, que le gouvernement congolais puisse, cette fois, demander au gouvernement angolais de façon énergique et forte pour lui dire que non, toi c'est toi, sinon nous appliquons aussi la loi. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire rapidement, l'histoire d'un boulanger qui était dans un village et, bon, les gens tout le temps disaient, quand ils passaient, ils disaient, toi tu es venu manger le pain de français. Toi, tu es venu manger le pain de français. Le type s'est dit, j'en ai assez. Il fermait ses bagages et sa voix. Le lendemain, il n'y avait pas de pain dans le village. On se rend compte que cet homme-là, qu'on disait, il mangeait le pain de français, c'était lui le boulanger. Donc, les Congolais qui sont en Angola, vous pensez qu'ils n'apportent vraiment rien? Si c'est vrai, alors ils n'apportent rien, que le Congolais revienne.
Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît à Kinshasa et distribué à l'est de la RDC. La RDC, la République démocratique du Congo, n'est-elle pas embarrassé par ces problèmes?
Mais tout
c'est
à fait.
C'est lorsque nous rappelons l'intervention de l'Angola en 1998, lorsque la ville de Kinshasa a été sur le point de tomber entre les mains de la rébellion. Est-ce que cela n'explique pas le mythisme dans lequel se réfugient les gouvernements congolais?
Entre autres, mon cher Guy, on entend des officiels répondre à tort et à travers, à temps et à contre-temps, sur n'importe quoi. Pour des faits graves comme ça, silence radio. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on regarde aussi de notre côté. Qui on expulse en Angola? Ce n'est pas le Congolais qui en règle en Angola. Et ce n'est pas la première fois. Pourquoi quand on expulse les Congolais d'Angola, on se retrouve dans une tripartite ou une table ronde où il y a les Angolais et les Congolais? Pourquoi chaque fois les Congolais se lèvent la queue entre les pattes? Parce que ce sont des irréguliers. Pourquoi les Congolais fuient la RDC? C'est parce que le gouvernement ne fait pas son travail. Pourquoi les gens doivent aller fuir la misère chez nous pour aller faire n'importe quoi à l'extérieur? Pourquoi les Congolais sont des sans-papiers là-bas? C'est parce que chez nous, malheureusement, ça ne va pas. On devrait se regarder les yeux dans les yeux, battre sa coupe, dire « Bon, voilà, chers frères, chers compatriotes, arrêtons d'aller en Angola sans papier, parce que c'est une solution. » Moi, je ne suis pas sûr, parce que j'ai déjà été à Luanda, n'est-ce pas, mais des Congolais en règle avec le gouvernement angolais, et quand le gouvernement angolais applique la loi, c'est contre les Congolais sans papier que ça arrive. Si notre gouvernement faisait la même chose, des sans-papiers, parce que malheureusement, quand on expulse les Angolais qui sont ici, ce sont des Angolais qui ont des papiers, malheureusement. Mais
les Congolais n'ont pas de papiers, ils ont des papiers là-dedans.
Malheureusement, ceux qu'on expulse, généralement, c'est des sans-papiers. Parce que les Congolais en règle, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit en Angola, ce sont ceux-là n'ont aucun problème avec
Et qu'est-ce que vous proposez pour que, même s'il y a expulsion, mais que cela se fasse dans le respect des droits de la personne, des droits de l'homme?
C'est là que je condamne le silence de notre gouvernement. Notre gouvernement réagit à temps et à contre-temps sur n'importe quoi. Mais là, sur un fait grave, on n'a entendu personne dire un mot sur ça. Moi, je pensais que la réunion institutionnelle allait même en toucher un mot. Parce que c'est grave que la population congolaise soit traitée comme du bétail et les dirigeants, nos dirigeants, se taisent comme si de rien n'était. C'est dommage.
Merci, c'est la fin de cette émission. Héritier Sidiakala était à la technique, Kéline Couté à la réalisation, assistée de Samuel Sakak et de Alain Irung, sous la supervision de Ben Kabamba, devant ce micro Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.
Oh,